Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un cauchemar vivant, c'est ainsi que le secrétaire général de l'ONU décrit la situation en Syrie 10 ans après les premières manifestations contre le régime de Bachar al-Assad. La guerre a fait 400 000 morts, 6 millions de réfugiés et autant de déplacés, et des millions de disparus, de détenus et de torturés. C'est par là que nous allons commencer cette émission spéciale d'Accent d'Europe consacrée à la guerre en Syrie. Nous parlerons bien sûr de tous les exilés qui ont demandé l'asile sur le continent, de l'échec diplomatique de l'Europe et de la Russie qui a profité du conflit pour revenir au centre de l'échiquier international. Mais tout de suite, direction l'Allemagne où c'est l'heure des comptes pour les crimes commis par le régime du dictateur syrien. Pour la première fois, le 23 avril dernier, à Koblenz, un membre des services secrets réfugié en Allemagne a été condamné à 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité à l'encontre des manifestants arrêtés et torturés au début de la révolution. Un procès inédit qui se poursuit toujours contre le principal accusé, Anwar Raslan, homme clé du système de torture syrien et officier de haut rang. Depuis Berlin, c'est le reportage de Julien Méchaussi.
Cet instrument s'appelle Oud. C'est un instrument très ancien, inventé en Mésopotamie il y a plus de 6000 ans. C'est un peu le grand-oncle de la guitare.
It's kind of the great uncle of a guitar.
Dans son appartement du nord de Berlin, les yeux fermés, le visage et le corps entièrement voués à son instrument, Wassim Mugdad joue l'une de ses compositions. Musicien professionnel, Wassim Mugdad a été arrêté à plusieurs reprises au tout début de la révolution. Il a notamment passé 5 jours dans ce que le régime appelle l'unité Al-Khatib, ou unité 251, un centre de détention et de torture situé dans le centre de Damas. Il y a été battu, torturé et humilié par un homme, Anwar Raslan. S'il avait les yeux bandés au cours des supplices subis, il a pu identifier son tortionnaire grâce à son oreille musicale. C'est sa voix qui a trahi Anwar Raslan. Wassim Mugdad a témoigné devant la haute cour régionale de Koblenz, procès dont il est également partie civile.
Je peux affirmer qu'il est personnellement responsable des tortures que j'ai subies. C'est lui-même qui m'a torturé. Et au-delà de ça, c'est lui qui donnait les ordres. Il était au sommet de la pyramide. C'était lui, le colonel-major de la branche Al-Khatib. Il n'y avait aucun autre officier au-dessus de lui dans cette prison. Il savait forcément tout ce qu'il s'y passait.
Anwar Raslan est poursuivi pour crimes contre l'humanité, la mort de 58 personnes et des actes de torture infligés à 4000 personnes. Un procès rendu possible par le principe de compétence universelle, lequel permet à un État de poursuivre les auteurs de tels crimes, quel que soit le lieu où ils ont été commis et la nationalité de leurs auteurs. Outre les témoignages, comme ceux de Wassim Mugdad, il a fallu des preuves pour monter le dossier d'accusation. Des preuves que la justice allemande doit avant tout à César, le nom donné à un photographe légiste militaire qui a déserté et réussi à faire sortir de Syrie des dizaines de milliers de photos de victimes de crimes contre l'humanité. Une partie provient directement de l'unité Al-Khatib. Derrière cette porte d'une arrière-cour du quartier de Kreuzberg travaille Ibrahim Al-Kassem. Avocat syrien, il a lui-même été arrêté et torturé avant de se réfugier en Allemagne. Il fait partie des rares personnes à avoir eu accès aux photos de César. Sur chaque corps est déposée une petite feuille de papier avec 3 numéros, celui du détenu, celui de l'hôpital militaire où le cadavre a été transféré et enfin celui de la prison, comme 251 pour Al-Khatib.
Sur cette photo, vous pouvez voir comment les mains de la victime sont tuméfiées. Nous ne connaissons pas les raisons exactes de son décès, mais on peut clairement constater les nombreux hématomes au visage. On voit parfaitement les traces, la violence des coups portés et les tortures sur les joues, les yeux et les oreilles.
Une incroyable source d'informations, selon Ibrahim Al-Kassem, sans laquelle ce procès et ce à venir ne seraient pas possibles.
Ces photos constituent la base sur laquelle reposent tous les procès et les enquêtes. Ce sont des preuves irréfutables. Ces documents ne sont certes qu'une partie du puzzle, mais c'est la partie la plus importante de ce puzzle. Ils sont fondamentaux pour pouvoir rendre la justice ici, en Europe. Ils démontrent que le régime est l'unique responsable de tous ces crimes, qu'il ne s'agit pas de faits isolés, mais bien d'une stratégie globale, d'un système mis en place par le régime pour assassiner le peuple syrien.
Nous sommes à présent dans le bureau berlinois d'Anwar Al-Bouni, odeur de tabac froid et imposante cigarette électronique en main. Cet autre avocat syrien joue également un rôle clé dans ces poursuites judiciaires. C'est lui qui a récolté les premiers témoignages de réfugiés syriens qui ont reconnu leurs anciens tortionnaires dans la rue, dans un magasin ou dans un centre d'accueil. Des tortionnaires qui se sont fondus dans le million de réfugiés arrivés en Allemagne au cours de l'année 2015.
Après le début du premier procès l'année dernière à Koblenz, j'ai été submergé d'appels de Syriens qui souhaitaient témoigner, partager des informations, s'impliquer dans ce processus pour obtenir justice. Encore aujourd'hui, ça n'arrête pas. Ce qui se passe à Koblenz a donné du courage aux Syriens pour témoigner. Ils peuvent enfin de nouveau espérer.
Et pour Anwar Al-Bouni, la peur est désormais dans le camp des tortionnaires.
Tous jusqu'ici se sentaient en sécurité pour une raison très simple, le régime est toujours en place. Dans l'histoire, les criminels n'ont été poursuivis que lorsque le régime était tombé. Jamais nous n'avons vu des criminels poursuivis alors que les donneurs d'ordre étaient encore au pouvoir. Prenez les nazis ou plus récemment le Kosovo, il a fallu attendre la chute du régime pour voir la justice faire son travail. Ce à quoi nous assistons à Koblenz est totalement inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que ces procès sont une étape historique dans le combat contre la torture.
D'autres procédures sont actuellement en cours dans de nombreux pays européens, en France, en Autriche, aux Pays-Bas ou encore en Scandinavie, avec cet espoir pour de nombreux Syriens, voir un jour Bachar al-Assad et son clan sur le banc des accusés.
Et la guerre en Syrie, d'un point de vue plus diplomatique et stratégique, c'est aussi un constat d'échec, celui d'une impuissance européenne. On fait le bilan avec vous, Juliette Rangeval.
Mais cette guerre syrienne, Frédéric, ça fait 10 ans qu'elle met cruellement à l'épreuve la détermination européenne, ses valeurs et sa capacité à transformer ses ambitions en actes militaires, voire en solutions diplomatiques. Ses États membres vont apparaître très vite désunis sur la question du maintien d'une représentation diplomatique à Damas, par exemple. En revanche, l'Europe a montré son efficacité dans la gestion de la crise. L'Union européenne et les États membres ont fourni près de 20 milliards d'euros d'aide humanitaire aux Syriens depuis 2011 et 400 millions d'euros d'aide à la stabilisation dans les anciennes zones de Daesh, dans le nord-est de la Syrie. Et puis, il y a eu la mise en place de sanctions contre des responsables du régime syrien. Mais l'efficacité de ces sanctions est toujours sujette à débat.
Il y a deux moments charnières et le premier, c'est en 2013.
Oui, c'est la fameuse ligne rouge tracée par Barack Obama, la menace d'une intervention militaire en cas d'utilisation par le régime syrien d'armes chimiques. Ce sera le cas le 21 août 2013 avec le massacre de la Ghouta, un quartier de Damas. Seule la France, dirigée à l'époque par François Hollande, prend des dispositions pour intervenir. Le Britannique David Cameron se montre intéressé, mais il n'est pas suivi par les membres du Parlement britannique et il renonce. Paris propose alors une coopération bilatérale à Washington, mais Barack Obama refuse au dernier moment d'intervenir. La France doit suivre. Elle n'interviendra pas.
Deuxième moment charnière 2014, quand l'EI, l'organisation de l'État islamique Daesh, proclame le califat sur une partie des territoires syriens et irakiens.
Ouais, cette menace djihadiste, elle va entraîner la plus grave crise humanitaire de notre époque, selon Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Des millions de personnes quittent la Syrie. C'est le début de la grande crise migratoire qui va secouer l'Europe en 2015 et provoquer des divisions entre États membres encore sensibles aujourd'hui. C'est aussi cette menace qui va entraîner la Russie de plein pied dans le conflit et susciter une intervention occidentale Comme l'explique Antoine Mariotti, le journaliste vient de publier La honte de l'Occident chez Talendier. Il est au micro de Muriel Paradon.
Ce qui a été important à un moment donné pour les Occidentaux, et c'est la seule chose pour laquelle ils se sont réellement engagés, c'était de faire tomber ce califat, entre guillemets, de l'État islamique qui était à cheval sur l'Irak et sur la Syrie. C'est la seule chose pour laquelle ils ont accepté d'intervenir réellement, militairement, en Syrie. Pour aider l'opposition, ils ne l'ont pas fait. Alors que les Russes, eux, quand ils sont intervenus à partir de septembre 2015 pour soutenir le pouvoir syrien, ils sont également frappé des positions de l'État islamique, mais pas que, parce qu'il y a eu d'autres groupes islamistes, mais ils ont aussi frappé l'opposition qui tenait tête ou qui mettait en difficulté l'armée syrienne. Donc, eux sont allés au bout, sont allés plus loin que la lutte contre l'État islamique, et évidemment, ça a été tout bénéfice pour Bachar al-Assad, alors que l'opposition syrienne, finalement, n'a jamais réussi à obtenir un soutien suffisamment conséquent, que ce soit diplomatiquement ou militairement.
Et c'est donc le voisin russe, Frédéric, qui inquiète toujours les Européens et qui paraît aujourd'hui avoir le plus nettement avancé ses pions en Syrie.
Merci Julia Trangeval. On vient de le voir, s'il est un pays qui a tiré parti de l'internationalisation du conflit syrien, c'est bien la Russie, soutien indéfectible du régime de Bachar al-Assad et omniprésente encore aujourd'hui. On retrouve à Moscou Jean Casset.
La Russie possède de nombreux intérêts en Syrie et des raisons évidentes d'y intervenir. On y trouve son unique base navale en Méditerranée, à Tartous. Et surtout, depuis le renversement en 2011 du colonel Kadhafi en Libye, la Russie, qui avait laissé à l'époque cette intervention se produire, se sent trahie et n'entend pas laisser le scénario se reproduire. À tel point qu'en 2015, face à l'effondrement de l'armée syrienne, Vladimir Poutine prend tout le monde de court en intervenant directement dans le conflit. Aviation, marine de guerre, forces spéciales, police militaire, la Russie s'impose sur le terrain et renverse la situation. Elle refuse de faire la moindre distinction entre les terroristes de l'État islamique et les rebelles soutenus par les Occidentaux ou les combattants kurdes et écrase toute résistance sous des tapis de bombes. En quelques mois, elle assure la victoire par les armes de Bachar al-Assad au prix de très nombreuses victimes civiles. Aujourd'hui, où en est la Russie ? Militairement, elle a remporté une victoire nette. Assad est toujours au pouvoir. Les derniers combattants rebelles sont acculés dans l'enclave d'Idlib. La Russie a rapatrié la majeure partie de son corps expéditionnaire. Elle conserve sa base navale de Tartous, qu'elle est en train d'agrandir, et a même gagné une base aérienne, à Khmeimim, qui lui sert de plaque tournante pour projeter son aviation en Afrique, dans l'océan Indien et jusqu'en Amérique du Sud. Elle est aussi dorénavant au centre du jeu diplomatique. Les pays occidentaux sont sur la touche. La Russie parle avec le régime de Damas, avec la Turquie, l'Iran, Israël. Mais tous ses partenaires, qui se détestent souvent mutuellement, ce sont autant d'intérêts divergents à concilier pour trouver une solution politique à la crise syrienne. Les armes russes se sont peut-être imposées sur le terrain, mais ces diplomates, 10 ans après le début du conflit, n'ont pas encore gagné la partie.
Et les civils, premières victimes d'une guerre civile puis internationale, on compte aujourd'hui près de 6 millions de réfugiés répartis entre le Moyen-Orient et l'Europe. Et c'est en Turquie, pays limitrophe, qu'ils ont cherché une protection en premier. C'est là aussi qu'ils sont le plus nombreux, 3 600 000, de loin le record mondial. Les autorités turques ont beau affirmer qu'ils vont repartir dans leur pays, rien n'est moins sûr. Voilà 10 ans que des familles sont installées, que leurs enfants sont scolarisés et ils imaginent plus leur futur en termes d'intégration que de retour au pays. Reportage à Istanbul, où vivent 500 000 de Syriens, signé Anandlauer.
Il y a un peu plus de 9 ans, en décembre 2011, Mohamed entrait en Turquie depuis la province d'Alep, en Syrie. Il avait 23 ans, il était célibataire, il fuyait les combats et pensait revenir vite dans son village de Hawar Kilis. Aujourd'hui, il reçoit dans un appartement d'Istanbul, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble vétuste, entouré de ses 3 enfants et de sa femme Noura, enceinte du 4e. Le couple s'est marié en 2013, il n'est jamais retourné en Syrie. Mohamed et Noura se décrivent comme bien intégrés, turkmènes, ils parlent turc, ce qui leur a tout de suite facilité la vie. Mohamed travaille dans le textile, il est globalement satisfait de sa situation et même reconnaissant.
Pour la santé par exemple, on n'a pas vraiment à se plaindre. Quand j'ai besoin d'un médicament à 100 livres, je n'en paye que 5 ou 10. C'est appréciable, ça montre que la Turquie s'implique, qu'elle se soucie de nous. et ça me rend heureux.
Le couple a des amis, des voisins turcs avec lesquels il parle de tout et de rien et échange des vœux lors des fêtes religieuses. Il sait que ce n'est pas le cas de beaucoup de Syriens. Murat Erdoğan, directeur du Centre de recherche sur la migration et l'intégration de l'Université turco-allemande d'Istanbul, confirme. Ce spécialiste met en garde contre le risque de communautarisme chez les réfugiés qui en viendrait à constituer une société parallèle.
Si vous allez dans les régions où les Syriens sont très nombreux, vous constaterez qu'ils vivent dans une sorte d'entre-soi. D'un côté, c'est tout à fait normal. Ils ont créé en Turquie des réseaux de solidarité, des chaînes d'entraide entre migrants qui les aident à se sentir davantage en sécurité. Mais ce sentiment de sécurité est aussi ce qui les éloigne, voire les isole de la société d'accueil. Et c'est un handicap pour la construction d'une société commune.
D'un autre côté, la présence massive des Syriens est extrêmement impopulaire dans l'opinion publique. Elle est d'autant plus que les Turcs ont pris conscience qu'une partie des réfugiés n'avait pas l'intention de rentrer en Syrie et n'y rentrerait pas, même si le discours officiel continue d'affirmer le contraire. Les Turcs leur sont hostiles, mais ils sont aussi résignés, constate Murat Erdoğan.
C'est ce que j'appelle l'acceptation sociétale. On ne parle pas tant d'intégration que d'acceptation de la part de la société d'accueil. Dans quelle mesure cette société accepte-t-elle ceux qui sont arrivés après ? Nous vivons une situation étrange. La société turque n'accepte pas les Syriens, mais elle ne leur montre pas vraiment. Elle est mécontente, mais elle ne leur fait pas trop ressentir. La raison est la suivante. Au départ, il y avait beaucoup d'inquiétudes liées aux Syriens. On disait qu'ils allaient voler le travail des Turcs ou créer des problèmes de sécurité. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Est-ce que ce sera le cas plus tard ? C'est un autre sujet de débat, mais quand ils regardent les 10 dernières années, les Turcs ne voient pas vraiment en quoi les Syriens ont pu nuire à leur société. En tout cas, ils n'en ont pas fait l'expérience personnelle.
En effet, on ne soulignera jamais assez que depuis tant d'années, la cohabitation entre 83 millions de Turcs et 3,5 millions de Syriens se déroule de façon largement pacifique. Et ce, alors que la Turquie leur a non seulement ouvert ses portes, mais aussi ses services publics. Mohamed, comme tous les Syriens enregistrés dans le pays, bénéficie d'une protection temporaire. Les Syriens ne sont pas réfugiés au sens du droit international, mais ils ont accès gratuitement aux services de base, la santé et l'éducation, et sont à l'abri d'une expulsion. Du moins, tant que cette protection leur sera accordée. Mohamed sait que ce statut est précaire, mais il n'est pas inquiet. Il attend plus de la Turquie.
Je n'ai pas peur d'être renvoyé en Syrie, mais je me demande ce qu'on va devenir. Ça fait 10 ans que la Turquie nous protège. Normalement, n'importe quel étranger qui vit en Turquie de façon régulière depuis plusieurs années, qui travaille, qui n'a jamais créé de problème, devrait au moins bénéficier d'un permis de séjour. Je pense qu'on devrait même obtenir la nationalité turque. Mais le gouvernement est réticent car il voit bien que la population est très divisée sur la question.
La nationalité, les autorités turques l'accordent au compte-gouttes. Fin 2019, la dernière fois que des chiffres ont été publiés, environ 110 000 Syriens l'avaient obtenu. Le chercheur Murat Erdoğan ne pense pas que naturaliser 3,5 millions de Syriens soit la meilleure solution. Il plaide pour une voie médiane, des permis de long séjour. Pour lui, l'intégration des enfants doit être une priorité.
Certes, actuellement, 700 000 petits Syriens vont à l'école et apprennent le turc. Ils jouent avec les enfants turcs dans la rue. Mais d'un autre côté, ils chercheront un jour ou l'autre à se construire une identité et risquent alors de faire le lien entre leurs problèmes et la société qui les accueille. Par exemple, s'ils ont subi des critiques pour avoir parlé arabe avec un ami dans la rue, tout cela risque de créer une forme de nationalisme et c'est ma principale inquiétude, cette colère de la jeunesse. Les Syriens qui sont plus âgés disent « Nous sommes très reconnaissants, la Turquie a sauvé notre vie, elle nous a soutenus, elle nous a ouvert ses portes. » Mais les enfants de 10 ans, de 15 ans aujourd'hui ne peuvent pas le percevoir. Donc, je vois un risque sérieux. Le gouvernement turc doit se demander comment intégrer davantage ces jeunes à la société.
L'enjeu est en effet de taille. La moitié des Syriens de Turquie ont moins de 18 ans et environ 100 000 bébés syriens naissent dans le pays chaque année. Les filles aînées de Mohamed et Noura ont déjà fait des projets. Medine, 8 ans, dit qu'elle sera médecin et Merjan, 6 ans, se voit bien pharmacien. En Turquie, évidemment.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.